le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. La pêche professionnelle peut-elle être durable ? En Bretagne Sud, des pêcheurs se sont associés avec des chercheurs pour suivre l'évolution des populations de langoustes. Ils se sont aussi imposés des limites de capture. Comment se sont-ils imposés ces limites ? A-t-il fallu légiférer pour qu'elles se maintiennent ? Quelle incidence cela a sur les langoustes ? Ces nouvelles contraintes permettent-elles aux pêcheurs de vivre ? Quelle est la participation et le statut des scientifiques dans ce projet ? Pour répondre à ces questions, nous aborderons dans ce premier numéro les causes qui ont conduit à cette évolution. Dans le numéro suivant, nous nous focaliserons sur la mise en place de la coopération entre les scientifiques et les pêcheurs. Dans un troisième numéro, nous décrirons les modes de gouvernance adoptés. Nous avons invité Martial Laurence, biologiste à Ifremer au sein du laboratoire de biologie halieutique. Olivier Thébault, économiste, responsable de l'unité économie maritime de l'Ifremer. Et Erwan Kemener, représentant des pêcheurs au comité départemental des pêches du Finistère. La parole à Olivier Thébault.
Merci Hervé pour cette invitation et l'occasion de discuter de ce sujet effectivement qui m'occupe pas mal depuis un certain nombre d'années. Donc je suis effectivement chercheur à l'Ifremer, j'étais jusqu'à récemment directeur d'une unité mixte de recherche qui s'appelle AMUR pour aménagement des usages, des ressources et des espaces maritimes et littoraux. Donc un collectif de chercheurs de l'Ifremer, de l'UBO et du CNRS, des disciplines plutôt des sciences sociales, en économie, en droit, et également en anthropologie, sociologie, sciences politiques, qui s'intéressent à ces questions de la façon dont on peut accompagner la gestion de l'utilisation des ressources en mer, alors sur la pêche et sur d'autres domaines, sur l'aquaculture, puis vous l'avez évoqué sur les questions plus nouvelles comme les énergies marines ou d'autres types d'activités en mer. Et j'ai eu l'occasion de travailler quelques années en Australie. Effectivement, j'ai eu dans ce contexte-là la possibilité de voir la façon dont les choses sont gérées dans ce contexte très différent d'une autre à plusieurs égards. Et donc voilà, c'est sur la base de cette expérience-là et puis des discussions qu'on avait eues sur le cycle dans son ensemble qu'on avait identifié l'intérêt de participer à cette table ronde ce soir.
Oui, j'ai monté avec vous le cycle d'ailleurs. Voilà. Vous m'avez piloté parmi vos nombreux confrères. Peut-être je passe la parole à Martial Laurence. Donc Martial, ouais, vos travaux par rapport à, et même plus que ça pour vous, j'ai l'impression, votre passion ou votre vie par rapport à la pêche durable. Parce que vous êtes plongeur aussi. Ouais.
Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation, Hervé. Plusieurs aspects. D'une part, un attachement personnel à la région bressoise, étant bressois. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément tout le temps des chercheurs travaillant sur Brest qui sont issus de la région, mais moi, c'est le cas. Très attaché à la mer d'Iroise et on va dire que à tout ce qui s'y passe en activité de pêche. J'ai moi-même été un petit peu marin pêcheur, oui. Donc c'est dire l'intérêt pour l'activité. Aujourd'hui, effectivement, dans mon travail au sein du laboratoire de biologie halieutique à Ifremer, à Brest, est vraiment de me concentrer sur deux types de stocks. L'un, je travaille sur les laminaires, principalement exploités en mer d'Iroise d'ailleurs. Et mon autre sujet, c'est vraiment la gestion des grands crustacés et notamment donc, la langouste rouge. Et c'est vrai que depuis maintenant une dizaine d'années, on a un travail assez conséquent sur cette espèce-là. On en parlera après, mais un travail qui a été vraiment développé en complète collaboration et coopération avec l'ensemble des acteurs de la filière. Avec aujourd'hui des résultats qui sont plutôt très, très positifs. Et donc au sein de mon laboratoire, on s'intéresse à... le travail, c'est vraiment de diagnostiquer l'état de la ressource, que ce soit pour des espèces très précises ou à une échelle, on parle beaucoup d'approche écosystémique, c'est d'essayer de comprendre finalement une espèce, c'est pas une espèce seule dans son milieu, mais c'est un ensemble d'espèces, de biodiversité et donc une activité autour. Donc nous, on travaille à réaliser les meilleurs diagnostics pour que derrière, il y ait une gestion la plus fine qui soit réalisée en assurant durabilité de l'exploitation, mais aussi conservation de l'écosystème. Voilà.
Là, je me tourne vers donc Erwan Kemener. Donc votre activité par rapport à la pêche, mais... Alors, petit encart sur la pêche durable, peut-être.
Alors, bonjour, merci de m'avoir invité également. Alors, pour moi, au sein du comité des pêches, c'est vrai que je suis divers sujets, alors que ce soit au niveau local, voire jusqu'au niveau européen. Après, j'ai deux sujets de prédilection qui sont les crustacés et les algues. Donc, on travaille énormément avec Martial. Et comment, donc, pour répondre à la question sur la pêche durable, alors c'est un bien grand mot qu'on entend depuis maintenant une quinzaine, voire vingtaine d'années. Les pêcheurs, à l'heure actuelle, l'ont bien compris, c'est récupérer uniquement les intérêts d'un stock. Donc c'est réussir à pêcher, laisser le capital et pêcher que les intérêts tous les ans.
Et c'est la métaphore du capital placé qui rapporte des... Si on l'épuise, il n'y a plus d'intérêt.
Ah bah exactement. Et quelque part, c'est ce qui s'est passé sur de nombreuses espèces, et notamment la langouste. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais voilà, c'est qu'on a puisé tout le capital à un moment donné.
Et c'est bien d'en prendre conscience qu'effectivement, qu'un capital qui s'épuise, même qu'il soit biologique...
ne rapporte plus. Exactement, c'est tout le problème, et c'est en fait des générations qui ont mis un peu de temps à le comprendre, et aujourd'hui on voit que c'est totalement l'inverse, c'est on laisse le capital et on prélève que les intérêts.
On va attaquer tout de suite sur l'historique du problème, l'état des lieux avant la raréfaction de la ressource, premier constat, premier diagnostic.
Alors, pour faire un bref historique de la pêche à la langouste, la pêche de la langouste s'est développée énormément à partir du début des années 50 jusque dans les années 70. C'était encore une pêche très très artisanale, manuelle, sans engins hydrauliques à bord. Donc c'était au casier, ils ramassaient leur casier à la main. À partir des années 70-72, on a vu les premiers appareils de pêche arriver à bord des navires, puis les premiers sondeurs, les premières cartes, donc ce qui a rendu la tâche beaucoup plus facile pour aller chercher cette espèce. Les premiers filets sont arrivés dans les années 75 à peu près. Les bateaux se sont rendus compte que c'était quand même beaucoup plus efficace de pêcher de la langouste et autre chose au filet qu'uniquement au casier. Donc, il y a eu un fort développement jusque dans les années 90. Bon, les filets ont continué. Dans les années 2000, résultat des courses pour cette espèce-là, on est tombé à des productions qui étaient très très marginales, quoi. Une dizaine de tonnes, voire 20 tonnes dans l'année sur la façade de Manche et Atlantique. Donc, ce qui représentait vraiment rien avec, on peut estimer, quasiment 90% de la production ici, dans le Finistère. Et donc on est passé de plus de 5000 tonnes par an dans les années 50 à même pas 10 tonnes dans les années 2000. Donc, voilà le déclin de la langouste qui était résumé très rapidement.
Oui, on peut dire en plus il y a un parallèle entre la montée de la technologie, c'est-à-dire le sondeur, c'est pas rien, l'hydraulique, les filets, contre le casier. Et au fur et à mesure qu'on a plus de moyens pour pêcher, on en a moins, quoi.
C'est totalement ça. Et puis après, il est pareil, les bateaux qui ont énormément évolué. Un bateau des années 60 comparé à un bateau des années... même 90, c'était plus du tout la même chose. Le matériel utilisé n'était plus le même. Ils pouvaient mettre beaucoup plus d'engins ou de longueur de filet à l'eau. C'était un peu la course aux échalotes. Et puis, à qui en ramènerait le plus avoir le plus d'argent dans le port, quoi.
Alors, je vais m'adresser à Martial, peut-être pour compléter le propos d'Erwan. Et de situer les chercheurs à ce moment-là, le moment dont je parle, c'est, je ne sais pas, 90, les choses commencent à changer. Est-ce que c'est visible du côté d'Ifremer, ce qui se passe là ? Peut-être avant, d'ailleurs.
Il y a une prise de conscience, effectivement, de la situation, mais qui est peut-être même un petit peu plutôt des années 2000, en fait. Ce que je rajouterais à ce que vient d'expliquer Erwan, c'est effectivement sur cette période de 60 ans, il y a quelques discussions pour essayer d'apporter des éléments, enfin des règles de gestion, mais il n'y a rien qui se met en place. Et on va dire qu'on arrive fin des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, à une situation qui est plus tenable, qui est confirmée par tout le monde, le stock s'est écroulé. Mais il n'y a encore rien qui est mis en place. Et là, c'est vraiment une discussion qui est assez partagée. Et il y a aussi le fait qu'on commence à... Il y a quelques pêcheurs qui ont un regard un peu différent sur la situation des stocks et qui disent mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On ne peut pas laisser les choses aller dans ce sens-là. Et là, il y a un premier... Alors, je vous parle tout en n'étant pas moi encore dans la partie à ce moment-là. Hein, un groupe qui se monte avec certains pêcheurs, certains scientifiques. Il ne faut pas l'oublier à ce moment-là, la mission du parc marin qui identifie cette espèce comme aussi une espèce
parc
qui
est, oui.
Voilà, comme une espèce qui est considérée comme emblématique en fait. Et voilà, le travail commence autour, mais la partie vraiment angulaire, c'est vraiment un représentant des pêcheurs et un pêcheur qui se disent il faut qu'on fasse quelque chose. Là, je peux les citer vraiment parce que c'est aussi leur rendre hommage. L'un est décédé aujourd'hui, c'était Yvon Le Normand. Guillaume Normand, qui était pêcheur, marin-pêcheur à Audierne, et qui a pêché durant sa jeunesse sur la Chaussette 5. Ils disent, mais c'est pas possible, il faut que je cherche quelque chose. Associé à Gilles Bernard, pardon. Et ces deux personnes sont vraiment les personnes qui ont commencé à se poser des questions, associées à la personne que j'ai remplacée, qui s'appelait Daniel Latruite. Et donc, on va dire, c'est un petit groupe qui, au début, fédère autour d'eux. Il y a plusieurs pêcheurs qui se sont dit, bah oui, il faut faire quelque chose. Et cette zone-là, c'est début des années 2000.
D'accord.
Donc d'abord des discussions, un constat, et qu'est-ce qu'on fait?
Ok. Je me tourne vers Olivier. Vous êtes économiste, peut-être plus... Alors la question, c'est, donc on est au virage de l'année 2000. Est-ce que les économistes sont déjà sur la question? De quelle manière? Est-ce qu'ils sont en Australie? Est-ce qu'ils sont en France? Comment vous envisagez, les économistes et vous, envisagez la pêche durable à ce moment-là? Et la question précise peut-être des langoustes.
Alors, sur la question précise des langoustes, à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas forcément des travaux directement appliqués. Mais en fait, même avant, disons que le cas de la langouste et de son effondrement évoqué par Erwan n'est pas unique. Et on a de nombreuses expériences d'effondrement de pêcheries de par le monde, notamment des célèbres. Hein, la pêcherie de morue autour des bancs de Terre-Neuve en est un exemple historique, mais il y en a eu un peu partout. Et donc, dès les années 50, des travaux, notamment d'économistes, ont essayé de mieux comprendre, et on reviendra, je pense, dessus, les déterminants de ces problèmes de surexploitation, puisque ça se répétait un peu partout dans le monde. Ce qu'on peut dire peut-être de l'époque, alors plutôt de la période à laquelle ça s'effondre vraiment, ou en tout cas ça se développe très fortement, c'est que cette prise de conscience, elle avait donné naissance à l'IFREMER, au moment de la création de l'IFREMER, à la mise en place d'un service qui s'appelle le service de développement et d'aménagement, qui est l'ancêtre du service d'économie maritime, aujourd'hui intégré dans l'UMR à Mur. Et dans lequel il y avait eu du recrutement justement d'économistes, oui. Pour essayer d'apporter ce regard, cette compréhension des déterminants économiques de ces trajectoires de surexploitation. Et notamment un certain Jean-Paul Troadec, qui était directeur des ressources vivantes de l'IFREMER, et qui a beaucoup écrit sur le sujet avec des collègues chercheurs ici, autour des problématiques de régulation de l'accès aux ressources halieutiques. Donc il y avait en fait une montée en puissance, ou je dirais en capacité aussi, progressive, qui se faisait dans ces années-là. L'équipe d'économistes de l'IFREMER, elle a été installée à Paris pendant un temps, et puis elle est arrivée à Brest en 98. Et donc, au début des années 2000, on est quelques-uns, on devait être 4 ou 5 dans un Algeco sur le site IFREMER, à faire les prémices de... Alors, il y avait eu des collègues avant, hein, puis plusieurs histoires de cette équipe, mais on commençait à s'investir, et notamment, c'était les études de préfiguration du parc naturel marin de la mer d'Iroise, et donc on a été impliqué à ce moment-là dans des travaux pour essayer de mieux décrire les pêcheries de la mer d'Iroise, les flottilles de pêche de la mer d'Iroise, en mettant en place des systèmes d'enquête sur lesquels on pourra revenir aussi.
Oui. D'accord, donc là, on voit comment, à un moment, bon, les choses s'écroulent. Peut-être on peut faire un gros plan sur vraiment des gros plans sur les ruptures, les ruptures techniques, les ruptures biologiques et les premiers diagnostics de chacun d'entre vous. Donc peut-être, je peux commencer par Martial sur les définissons les ruptures qui arrivent.
Ouais, alors pour compléter ce que disait Erwan, hein, les ruptures techniques c'est bien une mécanisation. Avant-guerre, c'est pour vous dire, hein, les bateaux qui allaient pêcher, en fait, c'était des bateaux qui souvent étaient à 2-3 hommes à bord et on va dire une trentaine de casiers maximum. Il faut bien savoir que quand on pose un casier à plus de 50 mètres de fond, il faut, pour le filer, il n'y a pas de problème, mais quand il faut le virer, il faut le remonter, quand il y a du courant. Donc voilà, donc une capacité finalement de puissance à travailler qui était limitée. Donc ça contraignait aussi l'effort de pêche. Il faut savoir qu'en hiver ou quand il y avait mauvais temps, les bateaux ne sortaient pas comme aujourd'hui. Donc en fait, on avait des contraintes assez... Et c'est vrai qu'après l'avènement de toute la puissance hydraulique à bord des bateaux fait qu'il y a vraiment des ruptures. La première rupture, c'est l'augmentation du nombre d'engins de pêche qui peuvent être mis en œuvre par les bateaux. Et aussi cette... Alors, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais il y a quelques réunions, on a fait un travail assez fin. Quand on va aux archives départementales du Finistère, on a trace des réunions qui avaient été initiées justement pendant les années 50 et 60 pour dire, oh là là, ça ne va pas dans le bon sens, il faut qu'on mette en place des règles. Mais ça, ils n'ont pas réussi à les mettre en place. Pour quelles raisons, je ne sais pas trop, parce qu'il y avait aussi, on était dans une dynamique où on pouvait aller de l'avant, et ils n'ont pas réussi à les mettre en place. Et après, c'est vrai que l'avènement du filet, quelque chose qui était plus efficient, et on le voit encore aujourd'hui, on n'a pas mis en place de suite le contrôle. Et surtout après, sur l'espèce, en fait, il n'y a pas eu de... À un moment, il y avait plein d'alertes, mais malheureusement, il n'y a pas réussi à avoir ce travail associatif entre les personnes et se dire on met des règles en place. Donc il y a vraiment plusieurs... C'est difficile de dire qu'il y ait une seule date. Je dirais que c'est plutôt... quelque chose qui avait une grosse inertie. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est discussion entre les acteurs, et Arwan pourra vous le dire, en fait, ça se fait beaucoup plus facilement. On est beaucoup plus apte à mettre en place des règles de manière assez rapide parce qu'il en faut, en fait. C'était pas le cas à l'époque. D'autres ruptures, je pense que c'est respect des tailles. Il y a plein de facteurs, et c'est assez multiple, qui fait que, voilà, il y a... Le train était en route et on n'a pas réussi là. Il s'est arrêté quand il est arrivé au bout du quai, quoi. Et puis là, il pouvait pas aller plus loin. Mais le stock, il était vraiment très très bas. Et à partir de là, on dit bon bah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pleure sur la situation ou est-ce qu'on essaie de travailler pour et c'est là que le côté coopératif est extrêmement important. Je vais vous dire l'aspect vraiment angulaire, c'est des pêcheurs qui se disent on commence à faire quelque chose, et surtout des pêcheurs qui rencontrent des acteurs provenant d'autres pays. Avec Olivier, on avait rencontré il y a 15 ans, on organise une réunion. On est quoi? On est à peine 10 à Ifremer. Donc c'était avec Stewart, voilà, qui lui avait l'expérience de la Tasmanie. On a réussi à mettre des règles en place même quand tout paraissait perdu. Et ici, ça fait tilt à l'oreille de 2-3 pêcheurs qui disent finalement, c'est peut-être possible de faire quelque chose. Et à partir de là, ils ont en tête que c'est possible. Donc si c'est possible, ça veut dire qu'on doit travailler à mettre des règles. Et parmi ces pêcheurs, il y avait Jean-Jacques Tanguy, en fait, qui à l'époque était président du comité local des pêches, en fait, et qui se dit si c'est possible ailleurs, on va essayer de le faire ici. Et voilà, ça part de quelques rencontres, de personnes qui sont vraiment... concernés et qui sont, fer de lance. Elle dit voilà, on va y aller, on va faire les et c'est, je crois que c'est ça en fait. C'est la rencontre entre des hommes qui à un moment se disent oui, on va le faire. Et puis le fait d'avoir été regardé ailleurs, je pense que c'est ça qui est important. Et c'est aussi peut-être notre rôle de scientifique ou représentant des pêcheurs, c'est d'aller chercher l'information dans d'autres endroits, voir comment ça fonctionne et se dire qu'est-ce qu'on peut aller chercher en fait. Et peut-être que la pierre angulaire, c'est entre 2000 et 2005, où il y a des hommes qui se disent on va peut-être réussir à faire changer la dynamique en fait.
D'accord. Peut-être Erwan, vous pourriez compléter sur cette rupture. Tout à l'heure, on a bien compris qu'un filet avec de la force hydraulique qu'on remonte, c'est pas comme un casier. J'ai vu ça récemment, là, parce que je m'intéresse à la pêche maintenant. Caseyeur, ça a l'air d'être un boulot, il faut des gros bras et c'est plus douloureux, plus difficile que de pêcher au filet et ça rapporte. Enfin, pour la langouste, semble-t-il, ça fait moins de retours.
Ah bah oui, oui, clairement. Pour caseyeur, le boulot est plus physique, faut porter les casiers, les boîtes et les ranger, alors que fileyeur, c'est un peu plus. L'hydraulique à bord permet que ce soit plus facile. Le filet à l'heure actuelle est plus efficace sur la langouste, même si on commence à avoir quelques apparitions de langoustes dans les casiers, chose qu'on n'a pas vu ou que les pêcheurs n'ont pas vu pendant quasiment les 25 dernières années. Donc elle revient un petit peu sur le fond.
Et sinon, pour revenir sur les ruptures, moi je pense qu'il y a deux, au moins sur la langouste, il y a deux grosses ruptures. Il y a la rupture de 2007 avec la création du cantonnement de la Chaussée de Saint,
ah oui.
Donc, qui a été quand même une demande de la part des professionnels du coin, et sous condition que le parc naturel.
Au départ, c'est une demande des professionnels.
C'est une demande des professionnels de créer un.
Pas, c'était pas des jurys, c'était pas des scientifiques, c'était.
Ah non, c'est les professionnels eux-mêmes qui sont allés alors faire un voyage d'études en Corse en 2004, qui sont revenus, qui ont dit bah très bien, on a une mission parc marin. Par contre, le parc marin, on n'en veut pas. Mais si on nous impose le parc marin, eh ben on met un cantonnement sur la Chaussée de Saint, mais on met pas un cantonnement comme dans les années 60 où personne s'en occupe. S'il y a un cantonnement, on fait un réel suivi. Et
avec... Les pêcheurs ont aussi exigé le suivi.
Les pêcheurs ont aussi exigé le suivi.
D'accord.
Donc maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on fait le suivi du parc, du cantonnement dans le parc. Donc on a d'excellents résultats. Donc il y a ce premier point-là. Et le deuxième point, la deuxième date charnière, c'est 2009, avec l'acceptation au niveau national d'augmenter la taille à 11 cm de taille céphalothoracique contre 9 cm au niveau européen.
En âge, ça fait combien ça
pour... En âge, ça fait 6-7 ans à peu près. Donc, on a...
Donc des langoustes plus vieilles de 7 ans.
Ah non, les langoustes plus vieilles de 2
non,
ans.
Non, je parlais, de 2 cm sur une langouste, ça représente combien de temps?
2 ans, 2 cm.
2 ans, d'accord.
Donc on a rajouté 2 ans. Mais ce qui leur permet d'avoir eu le temps de se reproduire, de porter des œufs.
C'est ça, la maturité sexuelle est atteinte, alors qu'avant, ils pouvaient pêcher.
Alors que dans les autres pays européens, à l'heure actuelle, c'est toujours pas le cas.
Ah d'accord, ouais, ça c'est une autre question, il faudra aborder aussi, comment faire.
Mais pour moi, il y a ces deux dates-là, il y a une première victoire avec le cantonnement et la prise de conscience des professionnels locaux, alors que ce soit Audierne ou le Conquet, parce qu'ils sont un peu battus pour savoir où ils le positionnaient exactement. Et après, la deuxième victoire, c'est que nos pêcheurs finistériens ont été plaidés à la cause de la langouste à Paris et ils ont réussi à augmenter la taille. Et grâce notamment aux travaux d'Ifremer pour nous dire qu'il fallait augmenter la taille.
Parce qu'il faut toujours de l'argumentation, bien sûr.
Et puis la dernière date, 2020, avec l'augmentation de la ressource, et il récupère un peu.
Oui, là on ira, parce que finalement c'est un projet qui nous rend optimiste sur des choses, sur des questions sur lesquelles on est. Moi j'ai plutôt tendance à être pessimiste. Là ça marche. Ouais.
Les questions du public.
Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-François Deval, je suis actuellement doctorant en économie au laboratoire à Mur, donc avec Olivier Thébault. Donc merci pour vos interventions. J'avais deux questions, juste une première question qui était, c'est quoi le cantonnement? C'est pas très clair pour moi ça, en quoi consiste le cantonnement? Et donc si j'ai bien compris, deuxième question, par rapport plus à la législation en place et la législation européenne, la taille qui est aujourd'hui adoptée par les pêcheurs bretons est supérieure à ce qui est prescrit dans les autres pays européens. C'est bien ça. Ok. Voilà.
C'est même pas les pêcheurs bretons, c'est les pêcheurs français en fait. Bah, français, façade Manche et Atlantique, parce que la Méditerranée c'est un stock différent qui est géré séparément. Mais... Et par contre, ouais, sur la définition. Alors, sur la définition du cantonnement, tu veux faire?
Marquer une zone et des règles.
Oui, voilà. Alors, du coup, dans le monde de la pêche, ce qu'on appelle un cantonnement, en l'occurrence le cantonnement de la Chaussée de Saint, qui est un cantonnement à crustacés, c'est une zone de réserve et qui est interdite à toute pêche de crustacés. Donc, dans cette zone-là, il y a interdiction de passer avec un chalut, de mettre des filets, du casier, nasse à poisson. La seule activité de pêche qui est autorisée, c'est de la ligne, clairement. Alors oui, du coup, c'est une zone qui est... La zone de Saint a été choisie... A été choisi pour ses caractéristiques, et notamment rocheuses, toute la chaussée, et son habitat pour les grands crustacés, que ce soit langoustes et homards. Et du coup, c'est pour laisser un peu la faune tranquille, et qu'elle puisse se reproduire, et qu'elle ne subisse pas de pression de pêche. Et l'idée des cantonnements à la base, c'était ça se reproduise et que du coup, ça diffuse aussi autour de ces zones-là.
Bonjour, donc Jean-Pierre Bompard, moi je suis...
Jean-Pierre Bompard.
Bompard, oui. B-O-M-P-A-R-D. Je suis membre de la Commission nationale du débat public et je suis plus particulièrement à l'heure actuelle le débat sur l'éolien offshore entre Groix et Belle-Île. Bon, alors, et il se trouve que le hasard fait que je suis Camarétois. Donc, j'habite Camaret. Et donc, le nombre d'histoires que je peux entendre est assez important. Ce que j'arrive pas bien à comprendre, c'est la position de l'Union européenne dans cette opération. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez mieux expliquer, si vous voulez, sur certaines variétés, on voit parfaitement que l'Union européenne intervient de manière assez drastique. D'ailleurs, si vous suivez la législation, à des moments donnés, ça tombe, en disant on arrête, etc. Sur la langouste, quelle est la position, en fait, de l'Union européenne? C'est de dire, on renationalise les politiques de pêche ou on maintient quand même une politique européenne en ce qui concerne la langouste?
Alors, je me permets de répondre, mais pour la position de l'Union européenne, sur un grand nombre de stocks, en fait, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de suivi. Ce sont, désolé pour nous, mais la langouste au niveau européen, ça ne représente rien du tout. Et du coup, ce sont des espèces qui ne sont pas mises sous les projecteurs jusqu'au jour où il y a une association ou qui que ce soit va porter cette espèce-là à connaissance de l'Union européenne, qui là, elle peut trancher et dire stop, on arrête tout, elle fait un moratoire. Sur la langouste, on a eu un peu de discussion comme ça à un moment donné. Et on leur a dit, laissez-nous une chance, parce qu'on est en train de mettre des mesures de gestion justement en place chez nous, et on veut vous montrer que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des résultats, et on n'a pas eu de mesures de gestion qui nous ont été imposées directement par Bruxelles. Mais vous reprenez le cas, par exemple, du bar, qui ne représente pas grand-chose au niveau européen. C'est comme ça que c'est arrivé, c'est les Anglais qui ont demandé un moratoire directement sur le bar. Et aujourd'hui, on ne sait plus vraiment comment, nous, pêcheurs français, en tout cas, comment se dépatouiller de tout ça. Quoi. En plus, dans un contexte Brexit, je n'irai pas jusque-là, mais...
Oui, juste peut-être aussi pour dire que la plupart des stocks qui sont vraiment gérés au niveau européen, avec des évaluations, sont les stocks qui sont partagés entre différents pays européens. Et donc, pour les stocks qui sont sous principalement exploitation nationale, il y a bien sûr une obligation des États membres de respecter les principes de la politique commune de la pêche. Mais en quelque sorte, une délégation complète de la manière de faire ça au niveau des pays. Donc, à moins, effectivement, que la Commission soit saisie et estime qu'il y ait des choses qui ne sont pas conformes à l'esprit de la politique commune de la pêche. Mais les stocks dont on entend parler pour leur gestion au niveau européen, c'est principalement ceux qui sont partagés par plusieurs pays et des flottilles de différents pays européens.
Une autre question, sinon on passe à la deuxième partie. Oui, Jean-François.
Merci. J'avais une question. Quand la ressource s'est effondrée, donc il y a des pêcheurs qui en dépendent, un territoire qui en dépend, comment ça a été un petit peu vécu sur le territoire au niveau des entreprises de pêche? Est-ce qu'il y a des gens qui ont dû mettre la clé sous la porte? Est-ce qu'il y a eu une réorientation des entreprises de pêche à l'époque sur d'autres espèces? Ce genre de choses. Comment le territoire a réagi un petit peu à cet effondrement de la ressource, finalement?
Tu peux compléter après. De manière clairement historique, sur le shift, le changement entre très peu de langoustes, il y a une partie des bateaux, c'est sûr, qui se sont reportés sur d'autres espèces. Le tourteau, ça en a été une pour les caseilleurs. Et il y a des marailleurs qui étaient spécialisés sur la langouste et qui se sont reportés sur d'autres espèces. En fait, ça, c'est certain. Sur sur une histoire plus récente, on va dire les années 90, début des années 90, on a encore 200 tonnes de langoustes qui sont pêchées, en fait. Mais c'est des bateaux qui, comme le disait Erwan, étaient déjà diversifiés, en fait, faisaient de la langouste, mais faisaient aussi de la lotte, faisaient de la raie. Donc, en fait, il n'y avait plus des bateaux qui étaient de manière monospécifique sur l'espèce. Donc, c'est ça qui fait que... C'est aussi ça qui fait que sur 60 ans, en fait, la langouste, elle a moins de poids économique parce qu'elle est moins pêchée, mais les bateaux se diversifient. Donc en fait, s'il n'y avait eu que cette espèce-là, comme c'est le cas dans d'autres endroits, je pense que la sonnette d'alarme aurait été tirée plus rapidement et on aurait mis en place des choses plus drastiques. Donc ça, c'est aussi cet aspect-là d'activité multispécifique, en fait.
Peut-être, oui, ça rejoint ce que j'expliquais sur l'importance de
de mieux connaître la structure économique des flottes de pêche, enfin, le fonctionnement des entreprises. Et on s'est rendu compte de ça, de cette très grande diversité finalement des espèces qui peuvent être ciblées. Et puis il y a aussi la dépendance à des zones qui peut varier assez fortement suivant les flottilles de pêche. Donc c'est un des résultats, je dirais, des travaux qu'on a commencé à mettre en place dans les années 2000, hein, ça remonte aux années 2000. Avant, on avait très peu de données sur la situation économique des flottes de pêche en Europe. Et il y a eu une directive européenne qui a permis de généraliser la collecte d'informations qui permettent justement de mieux cerner, et s'il y a un problème sur une espèce particulière ou sur une dimension de l'activité, quels enjeux ou quelles conséquences pour les flottilles en termes économiques. Aujourd'hui, on commence à avoir un peu de recul 20 ans après la mise en place de ce système-là, et donc plus de capacité à répondre à ce type de questions. Ouais.
Et je pense qu'une des réponses simples serait de prendre une photo du port du Conquet aujourd'hui, et vous allez chercher dans les archives, regardez la même photo prise en 1980. Vous allez voir déjà la structure des bateaux, comme vous parlait Erwan, mais c'était que des caseilleurs, et aujourd'hui vous n'avez que des fileilleurs. Donc vous avez eu des transformations assez importantes en fait. Hein. Et une espèce comme la lotte parlait à des anciens pêcheurs dans les années 60. C'est pas un poisson qui était intéressant en fait. Hein, il n'était pas du tout ciblé. Aujourd'hui, c'est la base économique de nombreux bateaux. Donc on voit bien que ces évolutions-là font qu'une espèce comme la langouste, eh ben, elle avait un petit peu disparu dans le dans l'image que l'on pouvait avoir de la pêche en fait.
Par contre, juste si je peux faire un parallèle, dans les années 90, c'était les caseilleurs qui ont réussi à passer justement au filet parce que bah, y avait une raréfaction de la ressource, notamment langoustes, et il y avait beaucoup plus de ressources au filet. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Aujourd'hui, ils ont des autorisations européennes, nationales de pêche sur un type de métier ou certaines espèces, et du coup, on vivrait la même situation aujourd'hui. Par contre, c'est clair que les communes ou les communautés littorales, ça ferait très mal. Ça se réglerait à plan de sortie de flotte et puis circuler, merci, au revoir.
Merci à Martial Laurence, biologiste à Ifremer au sein du laboratoire de biologie halieutique, à Olivier Thébault, économiste, responsable de l'unité d'économie maritime de l'Ifremer, et à Erwan Kemener, représentant des pêcheurs au comité départemental des pêches du Finistère. Nous les retrouverons dans le prochain numéro et nous nous focaliserons sur la mise en place de coopération entre pêcheurs et scientifiques. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.
Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et sociétés.